Aujourd'hui, on discute du rapport canadien sur la pharmacie hospitalière. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour, chers auditeurs. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous le savent pour l'avoir déjà consulté. Le sondage canadien sur les pharmacies hospitalières est une mine d'informations pour bien comprendre ce qui se passe dans la pratique en pharmacie d'établissement. Les résultats de l'exercice 2021 seront disponibles cet automne. Mais comme c'est un document assez volumineux, nous avons demandé à Jean-François Bussière de nous expliquer les éléments qui doivent retenir notre attention. Jean-François est un pharmacien bien connu. Il est nouvellement retraité de la chefferie du département de pharmacie du CHU Sainte-Justine, mais il continuera à être responsable de l'unité de recherche en pratique pharmaceutique. Qui sait? Il vous a peut-être même enseigné dans un cours de gestion et législation à la faculté de pharmacie de l'Université Laval ou de l'Université de Montréal. Bonjour Jean-François.
Bonjour Nathalie.
Écoute Jean-François, là, c'est quoi le sondage sur les pharmacies hospitalières, mais surtout, pourquoi nos auditeurs devraient continuer de t'écouter?
Alors Nathalie, c'est une enquête qui existe depuis 1985-86. On fonctionne par année financière. C'est une enquête canadienne à laquelle le Québec participe. Il y a un comité éditorial indépendant avec des pharmaciens de différentes provinces. Au Québec, André Bonici et moi sommes actuellement les deux éditeurs pour le Québec. C'est unique au Canada. Il y a peu ou pas d'autres professions qui profitent d'une enquête historique de cette qualité. C'est intéressant de se comparer et on peut, si on lit l'enquête canadienne, se comparer à des données américaines puisqu'ils ont un cycle de 3 ans. C'est notre principal point de comparaison. Et il faut dire que la PES s'est ralliée à cette enquête-là depuis 1996-97. Donc, la PES encourage ses membres à répondre à cette enquête. En définitive, pour se demander pourquoi consulter, écoute, c'est la plus complète mine d'informations sur ce qui se passe en pharmacie d'hôpital. Ce que font les gens, quels sont leurs rôles, quels sont leurs effectifs, quelles sont les données qui permettent de se comparer, et se comparer, ça permet de progresser.
Merci Jean-François, j'espère que ça convainc les gens que c'est important d'écouter les informations qui vont suivre. En commençant, on va quand même parler un petit peu de la méthodologie qui sous-tend le sondage. Peux-tu m'expliquer un peu comment ça fonctionne?
Alors, c'est une enquête rétrospective, et on questionne les chefs de département de pharmacie sur une année financière, l'année qui précède. Alors, les résultats que les gens vont consulter portent sur l'année 2020-2021. On est en pleine pandémie. C'est une enquête en ligne. Elle cible les hôpitaux qui ont au moins 50 lits de courte durée. Donc, a priori, au Québec, ce sont tous nos CIS, nos CIUS, nos CHU. On envoie un courriel aux gens, mais pour que les gens répondent, on les relance. Alors, il y a plusieurs relances faites par les éditeurs de chaque province. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a aussi fait un sondage complémentaire pour les petits hôpitaux, donc les installations de moins de 50 lits, pour apprécier l'enquête puis le taux de réponse. C'est un peu mélangeant, là, parce qu'on a, au Québec, on a 34 établissements de santé, mais on a plusieurs installations. Alors, il y a des gens qui répondent pour des installations, c'est un site, puis d'autres qui répondent pour l'ensemble des installations. Au lecteur, on vous dit, regardez bien, les données, le taux de réponse est élevé. On décrit la majorité des installations, mais le diable est dans les détails pour apprécier le taux de réponse.
Donne-moi un exemple précis là, d'installation. Là. Prends-moi un centre universitaire là, pour que les auditeurs comprennent bien c'est quoi.
Alors, eh bien, si on prend par exemple le CUSM, on a l'hôpital, les anciennes dénominations, là, le site Royal Victoria qui est dans le Glen, le site du Children qui est dans le Glen, mais le site du Général qui est physiquement différent, adossé sur la montagne. Si on prend un CIS ou un CIUS, bien, on va avoir les centres hospitaliers, mais leurs installations incluent également un CLSC ou deux ou trois, un CHSLD. Alors, de façon générale, la réforme de 2015 a fait que tout a été fusionné et que chaque département a plusieurs installations. Il revient à chaque chef de répondre à l'enquête avec le plus de données qu'il peut et c'est lui qui choisit d'inclure une ou plusieurs installations dans sa réponse.
OK, je comprends. Mais là, on va se comparer au Canada. Puis au Canada, ils n'ont pas des gros établissements de santé comme ça. Ils ont des installations. C'est ça l'enjeu de la compréhension.
La régionalisation est différente d'une province à l'autre. L'Alberta est allé le plus loin possible. Ils sont allés jusqu'à presque un seul hôpital pour toute l'Alberta. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique qu'ils n'ont pas répondu à l'enquête cette année. Si on prend l'Ontario, il n'y a pas eu de régionalisation, donc ils ont encore on va dire pré-réforme de 2015, autant d'hôpitaux que dans les dernières décennies. Si on prend des provinces comme, mettons, la Saskatchewan ou le Manitoba, il y a eu une certaine régionalisation, mais il reste beaucoup de petits hôpitaux. Et ça, ça nous étonne, un hôpital de 12 lits ici, de 15 lits, de 13 lits. Donc, une réalité qui est quand même différente d'une province à l'autre, mais de façon générale, les répondants à la grande enquête se comparent parce qu'ils ont au moins tous 50 lits de courte durée.
OK, je comprends. En tout cas, je comprends que c'est un gros travail d'analyse. On va essayer d'aller dans les données du sondage, mais on va essayer de discuter davantage des soins pharmaceutiques. Puis je pense au secteur de soins, là, puis aussi des services pharmaceutiques. Puis là, je pense au rôle du technicien, là. Puis si on a assez de temps, j'aimerais ça que tu nous glisses un petit mot sur l'influence de la pandémie dans nos départements de pharmacie. Est-ce que ça te convient?
Ouais, c'est un bon plan.
C'est excellent. Donc, on commence par les soins pharmaceutiques. Je me demande dans quel secteur est-ce que le pharmacien est le plus présent auprès des patients ou, à contrario, quelle clientèle souffre de l'absence du pharmacien?
La première chose, c'est qu'on demande depuis plusieurs années aux gens la couverture de soins pharmaceutiques offerte. Si on revient au Québec deux secondes et qu'on garde notre guide de la PES de l'axe 1, on a demandé à tous les chefs de produire un profil de l'offre de soins. Alors, quand les gens répondent à l'enquête, notre question, elle demande, avez-vous des soins pharmaceutiques décentralisés à raison d'au moins un jour semaine, 0,2 équivalent temps plein. Tant qu'à moi, c'est bien insuffisant, mais c'est ça la question qui est posée. Donc, les données qu'on a de couverture réfèrent à au moins un jour semaine dans un programme de soins.
Je suis d'accord avec toi, c'est très peu.
Voyons en ambulatoire, puis après en hospitalisé, si tu veux, d'accord. La couverture. Alors, pour apprécier la couverture ambulatoire, elle est plus élevée au Québec qu'au Canada pour 12 programmes. Donc, c'est bien. Hein? On se dit pour 12 de la trentaine de programmes déclarés. J'en nomme quelques-uns pour illustrer. L'urgence, l'onco, les maladies infectieuses. Ah, tiens, il y a des guides de la PES, peut-être que ça contribue à ça. Des soins palliatifs, de la cardio, de la douleur, de l'anticoagulo, de la recherche, de la médecine générale ou familiale, la réadap, du VIH, de la greffe de moelle osseuse. Donc ça, c'est des secteurs où notre proportion d'établissements ayant offert des soins décentralisés est plus grande. Elle est par contre inférieure pour 5 programmes. La préadmission chirurgicale, la santé mentale, la néphro, la gériatrie puis l'endocrino. Alors, il faut faire attention. Quand on dit qu'on est meilleur ou moins bon, parfois, la différence n'est pas très grande, 6-7 %. On peut dire en définitive qu'en ambulatoire, on a une bonne couverture et on se compare favorablement au reste du Canada. C'est malheureusement le contraire pour la clientèle hospitalisée. Alors, rapidement, elle est plus élevée au Québec pour 7 programmes. Soyons positifs. Gériatrie, anticoagulo, soins de longue durée, VIH, génétique. Alors, génétique, c'est marginal. T'sais, on est un peu meilleur, mais c'est marginal. Elle est inférieure pour 26 programmes. Donc, dans la majorité des programmes de soins, on a une couverture moins bonne. Est-ce qu'on peut identifier une raison? L'enquête ne va pas dans les raisons, là, mais je brièvement dis, peut-être que nos stages... On offre au Québec beaucoup de stages. On forme des résidents à la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Donc, il y a des exigences universitaires de couverture. Alors, il faut offrir une grande couverture pour satisfaire les exigences d'accréditation, de certification, ce qui fait qu'on peut moins tartiner, qu'on peut moins répartir nos ressources à une plus grande variété de programmes. C'est peut-être plus cohérent de mieux couvrir un programme et de ne pas couvrir un autre par ailleurs. Donc, l'effet de l'enseignement fait peut-être qu'on garde nos ressources ou on regroupe nos ressources à un nombre plus limité de programmes. Je pense que la deuxième et la meilleure explication, c'est la pénurie de ressources qui, elle, nous empêche d'assurer une couverture adéquate.
Mais je comprends là qu'un patient québécois a moins de chances de rencontrer un pharmacien s'il est hospitalisé que s'il est hospitalisé dans le reste du Canada.
Sur la base de la question à un jour semaine. Alors, il faut faire attention, ça reste une nuance. Dans l'enquête, on n'a pas d'indicateur quantitatif qui nous permettrait de préciser le nombre de patients couverts ou non couverts.
Quand même, en hospitalisé, il faudrait peut-être faire des efforts pour essayer d'avoir une meilleure couverture si on avait plus de monde. C'est ça que je comprends.
La discussion sur la pénurie a tout son sens.
Jean-François, parle-moi un peu des activités cliniques du pharmacien auprès des patients. Quelles sont les activités cliniques les plus réalisées au Québec?
On utilise, pour se comparer, la liste des activités cliniques que les Américains ont dans leur propre enquête. Donc, 23 activités. Et on a demandé aux gens, est-ce que vous le faites et dans quelle mesure? Donc, les gens ont une échelle de réponse. Sur les 23 activités, 8 activités pour lesquelles on est en avance par rapport au reste du pays. Je vous donne des exemples. Des éléments liés à la continuité des soins. Alors, tu sais, ça inclut de transférer notre patient à un collègue, que ce soit au sein de l'hôpital ou même à l'extérieur. La validation des premières doses, s'assurer de toujours qu'il y ait un pharmacien, dans le fond, avant qu'une première dose soit administrée. Les caractéristiques génétiques des patients, participer aux équipes d'intervention rapide. tout ce qui touche les ordonnances prérédigées, les protocoles qu'on rédige ensemble. Donc ça, on a des meilleures données que dans le reste du pays. À contrario, on a des reculs, il y en a qui sont étonnants. Notre participation à la pharmacovigilance, bien qu'on ait une communauté de pratique, les gens déclarent moins d'activité. La couverture uniforme en soins pharmaceutiques, elle semble plus uniforme dans le reste du pays que nous. Il y a des activités où on est meilleur, des activités où on est similaire, des activités où on est moins bon. Peu importe les résultats, il revient à chaque établissement d'aller se comparer, de se demander ce qu'il peut faire pour minimalement rejoindre la moyenne puis idéalement atteindre les meilleurs.
Oui, puis quand on a un recul, il faut se poser des questions. Comment on fait pour s'améliorer? Puis quand on est bon, bien, on continue d'avancer.
Exact.
Jean-François, dans le rapport canadien, là, on parle des indicateurs de performance, les KPI canadiens. On s'entend, les indicateurs, la PES a fait un projet là-dessus. C'est très à la mode, mais c'est plus ou moins utilisé en pharmacie. Qu'est-ce que ça dit dans le rapport canadien?
Bien, la première chose, c'est que la culture d'évaluation est moins prévalente au Québec que dans le reste du pays. Donc, on a moins de chefs de département qui colligent des données puis qui calculent des ratios. Pour les KPI, alors, les KPI, c'est quoi? Là, c'est une initiative canadienne à laquelle la PES a collaboré qui vise à mesurer des indicateurs en pharmacie clinique. Alors, par exemple, colliger des données dans le but de faire un suivi au patient, réconcilier la médication à l'arrivée ou au congé, offrir un plan de soins pharmacothérapeutiques à un patient de façon explicite dans un dossier. Donc, dans tous ces indicateurs-là, on collige moins de données, puis évidemment, on les a moins implantés. Mais plus loin que ça, quand on demande aux gens « Évaluez-vous vos pharmaciens? Allez-vous faire de l'observation directe au chevet là, pour voir si le pharmacien se comporte selon les attentes, les règles du département et tout ça? » On est toujours en dessous de la donnée canadienne. Donc, une culture d'évaluation moins grande. Je pense qu'il y a un message dans l'enquête qui fait qu'on devrait davantage mettre d'efforts dans l'évaluation des pratiques.
Mais Jean-François, d'abord, je t'amène justement dans l'évaluation des pratiques parce que tu le sais, on a mis en place des ententes de pratiques avancées en partenariat dans la dernière année et demie à peu près. Et dans ces ententes-là, on doit s'engager à mettre en place un suivi de la qualité de l'acte pharmaceutique. Puis est-ce que cette évaluation a été réfléchie ou questionnée dans le sondage canadien?
Les questions ne portent pas tant sur les ententes de pratique. Si on regarde la perspective de la pratique canadienne selon le tableau de l'Association des pharmaciens du Canada, hein, on a à peu près dans toutes les provinces le droit de faire les mêmes nouvelles activités, là, ajuster des thérapies, prescrire des trucs pour des conditions mineures ou de nouvelles conditions. Alors, l'évolution des activités réservées progresse à peu près partout là, de la même manière. Dans l'enquête canadienne, on n'a pas de questions spécifiques aux ententes de partenariat, qui est une façon de travailler et donner plus d'autonomie aux pharmaciens. Mais quand on regarde la nature des activités cliniques, on voit qu'il y a un bon développement au Québec. Là. Il y a un inventaire de 23 activités cliniques. Le Québec se compare assez bien aux autres provinces quand on regarde jusqu'où le pharmacien peut aller. Ça inclut son implication en réanimation, ça inclut, on a parlé de la réconciliation juste avant. Là. Donc, on figure assez bien par rapport aux 23 activités, mais je n'ai rien de précis sur les ententes de pratique.
Puis dans la qualité de l'acte, est-ce que c'est évalué? Est-ce qu'on le sait?
Dans l'évaluation de l'acte, comme je disais tout à l'heure, on a moins de chefs de département qui font de l'évaluation, que ce soit en observation directe, que ce soit sur évaluation rétrospective des dossiers. Donc, il y a une culture d'évaluation moins grande.
D'accord. Pour nos auditeurs, là, ça serait quoi les messages clés qu'ils devraient retenir concernant les soins pharmaceutiques, là, les soins directement aux patients dans nos établissements de santé?
C'est essentiel de se comparer. Si on revient à la démarche du Québec et au guide de la PES, on s'attend à ce que les chefs de département, chaque année, fassent un profil de leur offre de soins et de leurs écarts. Alors, l'enquête canadienne, c'est le meilleur outil pour se comparer à l'échelle du pays et pour faire leur propre réflexion locale. Je pense que dans notre évolution, il faut identifier là, c'est quoi la suite, là, quelles sont les clientèles orphelines, dans quoi on doit investir. Alors, ça inclut s'arrimer avec notre association, nos facultés et tout ça, pour que le développement des soins pharmaceutiques continue de se faire de façon cohérente à l'échelle du Québec.
Tout à fait. Merci, Jean-François. Maintenant, parle-moi un peu du circuit du médicament dans l'hôpital ou ce qu'on appelle les services pharmaceutiques. C'est quoi les résultats de l'enquête à propos des services pharmaceutiques?
Alors, le Québec se positionne avantageusement, on est en avance quand on regarde les données, au chapitre du déploiement de l'unidose, de l'encadrement des préparations magistrales non stériles et stériles, de la polyvalence du personnel technique, puis du recours à certaines technologies. Je t'en nomme quelques-unes, les pompes intelligentes, là, donc en termes de remplacement de nos vieux parcs de pompes, la numérisation au sens large, que ce soit des ordonnances, des photos et tout ça, puis le recours à des caméras pour être capable de tracer davantage nos processus. Alors, tout ça, c'est pas étranger au projet SARDEM, SARDEM phase 1, SARDEM phase 2, SARDEM phase 3. Par contre, il y a des éléments où on est en retard, où on sent là, qu'on a un écart, disons, défavorable au Québec, toujours dans le circuit du médicament. Par exemple, si je te parle des cabinets automatisés décentralisés, on a rejoint dans les dernières enquêtes la moyenne canadienne, et là, on décale. C'est là qu'on on a moins investi. C'est peut-être l'absence d'une phase 4 ou 5 de SARDEM qui était prévue, mais qui malheureusement n'a pas été renouvelée, et on a laissé aux établissements le soin d'eux-mêmes trouver les sous et négocier à l'interne de leur établissement la priorisation de ces technologies.
Jean-François, il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas c'est quoi le projet SARDEM. C'est quoi au juste?
Alors, c'est un acronyme qui veut dire Système automatisé et robotisé de distribution des médicaments. C'était un programme gouvernemental qui découle d'un rapport de 2005. On est en 2022. Ce rapport-là est venu avec de l'argent. Donc, il y a eu une priorisation par le Conseil du Trésor pour soutenir les établissements dans l'investissement dans le circuit.
Puis je comprends que ça a arrêté après la phase 3.
Exact. Pas de phase 4, pas de phase 5. Changement de gouvernement, changement de priorité. L'enquête montre qu'on serait mûr pour une phase 4 structurée pour éviter, disons, le à la carte qui sévit davantage actuellement.
Quand on se compare avec le reste du Canada, est-ce que le reste du Canada, au plan de la technologie, est supérieur à nous?
Bien, c'est davantage, je dirais, dans la prévalence des cabinets automatisés. On parlera tantôt de systèmes de saisie des ordonnances et tout ça. Mais pour l'unidose et les autres technologies mentionnées, le Québec est quand même en bonne position.
Bien, comme tu en parles, là, j'aimerais ça qu'on en parle, la prescription informatisée des ordonnances. Parce que, tu sais, au Québec, dans la plupart des établissements, les médecins prescrivent sur du papier, les assistants techniques en pharmacie recopient l'ordonnance dans le système informatique, puis le pharmacien s'assure que c'est le bon médicament pour le bon patient à la bonne dose. Donc, il valide le médicament. Mais est-ce que c'est différent dans le reste du Canada?
Bien, on est en retard. On sait depuis la fin, disons 2008-2009, que les États-Unis ont fait le choix d'investir massivement dans l'informatisation de leurs hôpitaux. C'était en réponse à la crise économique de 2008. Le Canada n'a pas fait le même choix. Donc, la progression du déploiement du dossier électronique santé, qu'on appelle le DSN, où là, il y a toutes sortes d'acronymes là, qui sont utilisés, quand on regarde la proportion des établissements qui ont un tel DSN, qu'elle est presque nulle, alors que dans le reste du Canada, il y a beaucoup d'initiatives avec le déploiement de différentes solutions, que ce soit Cerner, Epic et tout ça. Quand on parle du système informatisé d'entrée des ordonnances, donc là, c'est un morceau du DSN, c'est là, ce qu'on appelle le prescripteur électronique, où souvent on utilise l'acronyme anglais de CPOE, Computerized Physician Order Entry, 9% seulement au Québec. 9%, ça veut dire 3 établissements dans l'enquête. Mm-hmm. Donc, N égale à 3, c'est pas beaucoup. Contre 19% au Canada. Donc ça, il y a clairement un retard, mais on sait qu'il y a un appel d'offres qui est en cours avec un projet vitrine là, qui va être fait dans 6 du nord de l'île de Montréal et Mauricie, centre du Québec. Alors, il y a une opportunité, il y a un moment pivot dans l'histoire du circuit du médicament qui survient avec cet appel d'offres. Et je pense que tous les pharmaciens doivent s'intéresser à ça parce que c'est un outil fondamental au circuit du médicament en soutien aux soins pharmaceutiques. Ce qui sera décidé suite à cet appel d'offres-là va influencer considérablement la suite des choses. Alors, tu sais, dans un rapport comme ça, qui est davantage souvent vu comme un outil administratif pour les chefs, les équipes de gestion, un clinicien moyen ne se doute pas comment ce sondage, comment ces données auront une influence sur son avenir dans sa pratique clinique au chevet des patients. Donc, le dossier du DSN est un enjeu majeur de la prochaine année.
Fait que ce que je comprends, là, c'est que les auditeurs doivent s'intéresser à ce qui se passe en informatique dans leur établissement parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant.
Absolument. Dans la synthèse qu'on fait, puis dans les données détaillées, on ne fait que survoler. Là. On a demandé notamment aux gens s'ils avaient des ressources en informatique clinique. Là. Alors, les gens en ont un peu, mais honnêtement, c'est largement insuffisant. Un établissement qui fait le choix de s'informatiser au sens d'un DSN complet aura dans son département de pharmacie 4, 5, 6 personnes à temps complet pour toujours dédiées à l'encadrement de ce système. Souvent, en 2022, dans un département de pharmacie, quand on a un équivalent temps plein, c'est tout juste. Mm-hmm. Donc, l'informatique clinique doit devenir une priorité sans rogner sur les couvertures des clientèles pour les soins.
Écoute, j'ai une autre question un peu plus légère, là. Tu dirais-tu qu'on utilise plus ou moins de papier que nos collègues des autres provinces? Puis je vais aller plus loin. Est-ce qu'eux autres utilisent encore le fax?
Absolument. Le fax reste utilisé un peu partout. Le gain qu'on a fait au Québec, là où on est en avance, c'est qu'à cause de la numérisation qu'on a intégrée à nos outils, presque tout le monde numérise. Là. Puis je pense qu'avec la pandémie, il reste tout le monde numérise. Donc, il reste un support papier à l'étage, mais à la pharmacie, la majorité, sinon la totalité des gens sont numérisés. Il reste du papier dans le reste du Canada. Étrangement. Là. Alors, tu sais, il y a un progrès qui se fait en électronique où des gens deviennent totalement sans papier, mais au Québec, on a l'avantage, avec nos solutions de numérisation, d'avoir tracé puis archivé de façon permanente pour travailler. Donc, il y a un progrès là, mais il y a un retard parce que ce qu'on veut, c'est des ordonnances électroniques au final.
Ben oui, on ne veut plus avoir à recopier puis le risque d'erreur associé au recopiage d'une ordonnance.
Absolument.
Maintenant, Jean-François, t'en as parlé tantôt, on a un certain recul dans les soins qu'on peut interpréter par une pénurie de pharmaciens et d'assistants techniques d'ailleurs. Donc, je veux t'amener sur le sujet des ressources humaines. Avez-vous obtenu des données à ce sujet?
Alors absolument, on a des données là-dessus. Il faut comprendre que le sondage, c'est une enquête où on a un taux de réponse là, qui est quand même assez élevé. 89 % des chefs ont répondu, par exemple. Mais les gens répondent pour une ou plusieurs installations, donc ça ne décrit pas nécessairement 100 % de l'effectif. Il faut plusieurs sources pour être capable de comprendre une pénurie. Donc, l'enquête canadienne en est une. L'enquête que l'APES fait spécifiquement sur la pénurie à la fin de chaque exercice financier en est une autre. Puis ces données-là sont complémentaires. Il faut regarder l'ensemble de ces données-là pour apprécier la pénurie réelle. En ce qui concerne la pénurie de ressources humaines, quand on prend l'enquête canadienne, on a une donnée générale de 8,5 % au Québec contre 5 % au Canada, qui inclut les données du Québec. On fait toujours partie du calcul de la donnée canadienne. On a une deuxième question où on inclut les postes vacants ou non dotés, là, liés à une absence, par exemple, maladie ou maternité. Ça donne 14 % au Québec contre 8 % au Canada. Si on prend les données de l'APES, c'est un peu plus que 14 %, mais là, c'est des données plus exhaustives. L'APES s'assure que tous les chefs répondent, il y a des relances de fait, donc on arrive à un portrait plus complet. Donc, la pénurie, elle est importante au Québec, elle est d'abord pharmaceutique depuis une décennie et elle émerge au niveau des assistants techniques. Ça, c'est une nouvelle information. Donc, ça donne une pénurie au niveau des assistants techniques un peu plus élevée au Québec et ça ne serait pas étonnant dans les prochaines années qu'elle atteigne la même amplitude, de la même importance que celle des pharmaciens.
Mm-hmm. Mais tu sais, la pénurie aussi, là, je fais une réflexion, là, c'est pas basé sur les besoins répondus des patients, c'est basé sur les postes qui sont accordés.
Absolument.
Donc, en fait, si on regardait tous les patients qui reçoivent pas les services du pharmacien lorsqu'ils sont hospitalisés, notre pénurie serait beaucoup plus grande encore.
Absolument, absolument. Et je reviens au guide de la PES, on demande non seulement aux gens de faire un portrait de leur offre de soins, mais on leur demande d'évaluer les besoins pour assurer une couverture qui respecte leur cadre réglementaire, les standards de pratique de l'ordre au Québec. Donc, il y a un deuxième delta à calculer. Et oui, la proportion de patients non couverts, elle est plus grande. Donc, la pénurie de ressources est plus grande. Et je pense qu'il y a, dans la profession, une réflexion en cours actuellement sur la pertinence de rehausser le nombre d'admissions en pharmacie, par exemple, pour l'avenir, parce que les prédictions actuarielles, actuellement, ne sont pas rassurantes sur la couverture.
C'est intéressant. Écoute, Jean-François, tu le sais, plusieurs auditeurs le savent, je m'intéresse beaucoup, moi, aux ratios qui concernent les pharmaciens puis les patients. Là, aujourd'hui, je vais te demander, est-ce qu'il y a un ratio pharmacien-assistant technique en pharmacie idéal ou même un ratio pharmacien-technicien en pharmacie idéal?
Mais d'abord, disons le ratio réel. Okay, il est similaire au Québec et au Canada. On a à peu près 1,5 personnel technique pour un pharmacien. On a souvent tendance à penser que c'est 1:1, mais c'est plutôt 1,5 technicien ou assistant technique versus 1 pharmacien. Donc ça, c'est notre première chose. Tu es consciente, Nathalie, que dans le reste du Canada, il y a une démarche de réglementation là, qui amène le personnel technique à appartenir à un ordre professionnel, généralement l'ordre des pharmaciens. Là. Donc, deux professions se retrouvent représentées dans le même ordre. Dans l'enquête canadienne 2020-21, on a 64 % du personnel technique qui constitue des techniciens réglementés. Donc, il y a vraiment une tendance à ça. Au Québec, évidemment, il n'y a pas de techniciens réglementés actuellement. Alors, on a demandé aux gens, dans la perspective de ta question, c'est quoi l'idéal, vers quoi on devrait aller. La majorité des répondants ont indiqué cibler un ratio de 2 à 6 techniciens par pharmacien. Je te donne là, tu sais, une donnée grossière, c'est tout ventilé dans l'enquête. Donc, il y a un besoin d'accroître la quantité de personnel technique pour deux raisons. Compléter le circuit du médicament, parce qu'il reste des brèches, des choses pas offertes, des clientèles qui n'ont pas nécessairement d'unidose ou on n'offre pas tous les éléments du circuit, puis pour que le pharmacien puisse pleinement se consacrer aux soins. Même s'il reste une partie de service toujours dans la vie du pharmacien. Donc, on peut s'attendre dans l'avenir à ce qu'il y ait davantage de personnel technique dans nos départements de pharmacie, qu'il soit ATP ou TP.
Bon, on le souhaite en tout cas. Jean-François, on arrive à la fin de cet épisode, puis j'aimerais que tu nous parles là, de l'impact de la COVID-19 sur la pratique de la pharmacie hospitalière, parce que c'est sûr que ça a eu des impacts dans nos départements. Puis c'est quoi les leçons qu'on devrait en tirer?
Ouais, première constatation, ça nous a fait perdre des répondants dans l'enquête. Parce qu'évidemment, il y a des établissements qui ont trouvé ça difficile avec raison puis qui n'ont pas eu le temps. L'enquête montre, puisqu'on a une section dédiée à ça, là, que la pandémie a eu un impact sur la chaîne logistique. Et évidemment, on a travaillé très fort à travers le Canada, en particulier au Québec. Là, je dois souligner les efforts remarquables du CAG, là, des pharmaciens du CAG qui ont travaillé super fort à revoir leur stratégie pour limiter les pénuries. On a eu peur. L'enquête montre qu'on a stocké davantage. Puis honnêtement, on a manqué de peu de choses au final parce que les pharmaciens ont fait de la magie, là, ont travaillé très fort.
Tu me parles du CAG, encore là, pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi.
Oui, le Centre d'acquisition gouvernementale. C'est donc la nouvelle autorité qui est d'ailleurs née durant la pandémie, qui a regroupé les anciens groupes d'achat. Alors, on parlait de Sigma Santé, du GASEC, du GASOC. Donc, c'est la fusion de tout ça en une seule entité. Et il y a un comité de pharmaciens et des chefs de département qui donnent beaucoup de leur temps pro bono à toute cette initiative.
Puis je comprends qu'ils ont été très, très efficaces pendant la pandémie.
Totalement. Je leur lève mon chapeau. Puis pour illustrer ça dans l'enquête, on voit, je te donne un autre chiffre, là, le taux de rotation des stocks. Tu sais, en gestion financière, on veut idéalement que les stocks roulent. On veut garder le moins de stocks possible sur place puis commander au fur et à mesure, là. Honnêtement, dans un contexte de pandémie ou même pré-pandémie, c'est un concept qui n'est pas sécuritaire pour les patients. On devrait avoir des stocks pour des durées plus prolongées, ne pas être à la merci de l'Asie, par exemple, de la Chine, de l'Inde. Et ça fait une décennie que Sigma Santé, les pharmaciens de Sigma Santé réclament des stocks plus élevés au Québec pour pallier à des problèmes, que ce soit des enjeux politiques, dans ce cas-ci une pandémie. Dans l'enquête, on note que notre taux de rotation des stocks est passé de 10 fois à 8 fois. C'est une bonne nouvelle. Mais en finance, on dirait « c'est mauvais, on devrait aller dans l'autre sens ». Donc, c'est une bonne constatation. D'ailleurs, on s'est entendu avec le ministère pour aller à des stockages jusqu'à 90 jours, ce qui paraissait hérétique au début quand cette lettre-là a été écrite. Et là, tout le monde est conscient que 3 mois de stock, c'est bien mince au final. Une autre constatation de la COVID, c'est le télétravail. Donc, le Québec s'est distingué. Là, il y a plus de répondants québécois qui ont permis ou testé des initiatives de télétravail. Malgré ce fait, la réalité, quand on regarde au quotidien, il reste que c'est limité parce que notre vie se passe dans un hôpital. Les médicaments, les patients sont dans l'hôpital. Mais je pense qu'il y a eu quand même une belle créativité québécoise à cet égard-là, qui est peut-être aussi utile pour l'avenir dans la conciliation de travail-famille et la rétention des ressources.
C'est certainement intéressant à considérer.
Plus d'implication des pharmaciens, des équipes en vaccination. Donc, c'est pas juste dans l'acquisition du vaccin, dans sa préparation, mais également dans l'organisation des cliniques vaccinales, la participation et la présence de personnel pharmacie dans les cliniques ou dans les hôpitaux, les centres de vaccination. Puis, intéressant comme dernier élément, les pharmaciens, quand on leur demande êtes-vous préparés à faire face à une nouvelle pandémie ou à celle qui se continue, les répondants québécois se disent davantage préparés. Et je pense que c'est lié à la solidarité, la façon dont on a travaillé ensemble. Il y a vraiment eu une utilisation optimale de Teams et des moyens de se rejoindre, le rôle de l'association aussi. Tout ça, à mon avis, ça donne comme réponse nous sommes prêts à faire face à davantage.
Donc, je comprends que les pharmaciens ont été résilients puis qu'ils ont quand même relevé le défi puis sont prêts à poursuivre dans les futurs défis.
La pandémie étant un test remarquable pour vérifier la qualité, l'expertise, l'altruisme des pharmaciens hospitaliers et du milieu communautaire. Et oui, on a été là et on est encore là.
Je pense qu'on peut en être bien fiers. En tout cas, moi, je le suis. Jean-François, je me demande, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés que tu aurais aimé qu'on discute?
Alors, on a dit en introduction que c'est un gros travail. Ce gros travail-là, il y a deux fruits. Alors, il y a un rapport canadien, donc un article qui sera sur le site de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux qui inclut des éditeurs de chaque province. C'est un truc de 200 pages, de 200-250 pages. Donc, c'est vraiment un gros document. En plus, on a, André Bonici, Cynthia Tanguay et moi, écrit un article pour le Québec dans le Pharmactuel, qui est une lecture de ces données à la sauce québécoise, là. Donc, on s'assure de... Comme ça fait 4 ans qu'on avait sondé, on revient sur l'actualité, l'ensemble des changements juridiques, politiques, organisationnels. C'est vraiment un article de fond pour n'importe qui s'intéresse à la pratique hospitalière. On l'utilise dans l'enseignement dans les deux programmes à Laval et à Montréal également. Donc, le diable est dans les détails, on disait. Je pense que pour apprécier cette enquête-là, il faut l'ouvrir, il faut minimalement la survoler. On n'a pas parlé du sondage sur les petits hôpitaux et honnêtement, ça concerne davantage les provinces de l'Ouest, par exemple, et tout ça. Mais quand même, si j'exerce au Québec dans une petite installation, même si j'appartiens à un grand centre, ou si je suis dans une petite installation tout seul, si on pense, je ne sais pas moi, les Îles-de-la-Madeleine, par exemple, où on pourrait penser à l'hôpital de Catéry ou dans le Grand Nord et tout ça, il y a un intérêt à voir cette section complémentaire. La réalité, c'est pas pareil. Hein. Souvent, on a peu de ressources, moins de moyens, on a une distance. Donc, j'encourage les petits hôpitaux qui n'ont peut-être jamais regardé les grandes enquêtes de ce type-là à s'y intéresser. En lisant toutes ces données-là, c'est un plaidoyer remarquable de la spécialisation. Là. Il suffit de lire l'enquête quelques pages pour se dire « mais c'est complexe la pratique hospitalière ». Et les gens qui font ça, grâce à leur maîtrise en pharmacothérapie avancée ou le programme de résidence dans le reste du Canada, sont des pharmaciens spécialistes, sans aucun doute. Paradoxalement, cette spécialité, on a fêté le 60e anniversaire du diplôme en pharmacie d'hôpital, créé donc dans les années 60 au Québec. On continue de ne pas avoir cette reconnaissance de la spécialité qui m'apparaît plus urgente que jamais, notamment avec l'introduction des PharmD, qui vont davantage peut-être être ajoutés au réseau de la santé pour relever le défi des maisons des aînés. Donc, lire l'enquête canadienne confirme. C'est une autre preuve, une autre brique, et je pense que ça devrait être une priorité de groupe professionnel gouvernemental. En définitive, je veux te remercier, Nathalie, pour cette balado, mais toutes les autres balados, là, tu fais vivre les balados depuis plusieurs années, puis je pense que c'est un outil de diffusion qui permet de connecter les pharmaciens d'une façon plus légère, plus agréable, qui donne le goût de lire et d'aller plus loin. Donc, merci d'être la voix de l'association, puis de m'avoir donné ce privilège alors que je tire mon chapeau comme chef à Sainte-Justine.
Bien, merci Jean-François pour ces beaux compliments, puis merci pour ta présence. Je vais vous dire, chers auditeurs, j'ai eu la chance de lire l'article qui va paraître dans le Pharmactuel là, sur, entre autres, les données du rapport canadien, et je vous incite à le lire quand il sera publié, parce que c'est vraiment intéressant, puis ça nous amène un recul sur la pratique en pharmacie d'établissement. Donc, je vous rassure, les documents ne sont pas encore publiés, mais dès qu'ils le seront cet automne, on va mettre les liens en référence du balado, puis on va également les diffuser sur les principaux réseaux de l'association. Merci Jean-François Bussière pour ce passage à Très pharmacien.
Merci, Nathalie.
Je te souhaite une belle retraite de Sainte-Justine, quoique je sais que ce n'est pas une retraite de toutes tes activités.
Disons-nous à la prochaine.
À la prochaine. Et à vous qui nous écoutez, je vous souhaite une belle rentrée automnale et je vous dis à bientôt.